Chaque jour, la princesse Clémence envoyait un de ses gentilshommes prendre des nouvelles du blessé. Par trois fois, le comte de Bouville vint lui-même s'asseoir au chevet du jeune Italien. Bouville était accablé de travail et de soucis. Il s'efforçait de rendre une apparence convenable à l'escorte de la future reine avant de poursuivre le voyage. Personne n'avait plus de vêtements hormis ceux détrempés et gâchés que chacun portait en débarquant. Les gentilshommes et les dames de parage commandaient chez les tailleurs et les lingères sans se soucier de payer. Tout le trousseau de la princesse perdu en mer était à refaire. Il fallait racheter l'argenterie, la vaisselle, les coffres, les meubles de route. Bouville avait demandé des fonds à Paris. Paris avait répondu qu'on s'adressa à Naples puisque toutes ces pertes étaient survenues dans la partie du voyage qui incombait à la couronne de Sicile et que l'escorte se trouvait encore en terre angevine. Les Napolitains avaient renvoyé Bouville aux Bardi, leurs prêteurs habituels, ce qui expliquait le passage à Marseille du signor Boccace. En tout cet embrouillement, Guccio manquait fort à Bouville. « Qu'aviez-vous à glisser ?» disait l'ancien grand chambellan avec une nuance de reproche. « Vous voyez, le ciel vous a puni de vos paroles impies. » Et il me punit en même temps, me privant de votre aide, quand elle me serait le plus utile. Je n'entends rien au comte. Et je suis sûr qu'on me pille. Quand allez-vous repartir ? Lui demandait Guccio, qui voyait venir ce moment avec désespoir. Oh, mon ami, pas avant la mi-juillet. Peut-être serai-je remis ? Je le souhaite, efforcez-vous, votre guérison me rendrait grand service. Mais la mi-juillet arriva sans que Guccio fût rétabli. La veille du départ, Clémence de Hongrie tint à venir elle-même, dit Radio malade. Guccio était déjà fort envié de ses compagnons d'hôpital pour les visites qu'il recevait et toutes les attentions dont on l'entourait. Il commença de prendre figure de héros lorsque la fiancée du roi de France, accompagnée de deux dames et de six chevaliers napolitains, se fit ouvrir les portes de la grande salle de l'Hôtel-Dieu. Les frères hospitaliers, qui chantaient vêpres, se retournèrent surpris et leurs voix s'enrouèrent. La belle princesse s'agenouilla, comme la plus humble fidèle, puis, les prières terminées, elle avança entre les lits, suivie par son regard tragique. Sur les couches où les malades étaient allongés tête bêche, deux corps se dressaient pour la voir passer. Des mains de vieillards se tendaient vers elle. Donna Clemenza ordonna aussitôt aux gens de sa suite qu'on fît aumône à tous les indigents et qu'on donna 100 livres à la fondation. « Mais madame !» lui souffla Bouville, qui marchait à côté d'elle. Nous n'avons pas assez d'argent pour tout payer. Qu'importe. Cela vaut mieux que des coupes ciselées pour boire ou des soieries pour nous parer. J'ai honte de penser à de semblables vanités. J'ai honte même de ma santé lorsque je vois tant de misère. Elle apportait à Guccio un reliquaire de corps refermant un minuscule morceau de la robe de Saint-Jean, avec une goutte visible du sang du précurseur, qu'elle avait acheté fort cher à un juif spécialisé dans ce genre de commerce. Le reliquaire était soutenu par une chaînette d'or que Guccio aussitôt se passa au cou. « Ah, gentil signor Guccio, dit la princesse Clémence, j'ai chagrin de vous voir là. Vous avez fait par deux fois un long voyage pour être, auprès de messire de Bouville, le messager de bonnes nouvelles. Vous m'avez porté grand secours en mer, et vous ne serez point présent aux fêtes de mes noces. » Il faisait dans la salle une chaleur de four. Dehors, un orage menaçait. La princesse sortit de son aumônière un mouchoir et essuya la sueur qui vernissait le visage du blessé, d'un geste si naturel et si doux que Guccio en eut les larmes aux yeux. « Mais comment ce malheur vous est-il survenu ? » reprit Clémence. « Je n'ai rien vu, ni point encore compris ce qui s'est passé. J'ai cru, madame, que vous alliez descendre, et comme la nef était encore remuée, j'ai voulu m'élancer pour vous présenter le bras. » L'heure faisait qu'on y voyait guère et, voilà, le pied m'a glissé. Il serait désormais persuadé que les choses s'étaient passées ainsi et que ce mouvement qui l'avait poussé à sauter le premier. « Gentil signor Guccio, » répéta Clémence, tout émue. « Guérissez vite, j'en aurai joie. Et venez me l'annoncer à la cour de France. Mes portes vous seront toujours ouvertes comme à un ami. » Ils échangèrent un long regard, parfaitement innocent, parce qu'elle était fille de roi et lui fils de Lombard. Placés par la naissance en d'autres situations, ils eussent pu s'aimer.